Césure.
Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Césure sur Radio La Fabrique. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler musique classique et théâtre. Salut Olivier.
Salut Bastien.
Comment tu vas?
Écoute, ça va bien, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui.
Ah oui?
Eh oui, désormais c'est officiel, Césure, c'est tous les premiers mercredis du mois à 20h sur Radio La Fabrique.
Très bien, et je crois aussi qu'on peut nous suivre sur Facebook tous les autres jours du mois en fait.
Exactement, vous mettez Césure, votre émission musique et théâtre, si elle ne sort pas directement avec Césure bien sûr, et vous nous trouverez.
Très bien, et on peut également réécouter donc les émissions.
Les émissions sur le site www.lafabrique.ch.
Super. Alors, dis-moi Olivier, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on va écouter?
Alors, il y a tellement de choses en décembre en musique classique, j'ai dû faire un choix. J'ai fait un choix de ce qui m'est proche. Par exemple, Chantons Noël, dirigé et orchestré par notre invité du mois passé, Vincent Thévenin. Chantons Noël, c'est un spectacle. C'est un spectacle, en fait. Ce n'est pas un concert, c'est comme un spectacle avec des chanteurs et un orchestre. Et ce sont des chansons de Noël extrêmement célèbres que les gens dans le public chantent. Et puis par-dessous, il y a des arrangements complètement dingues qui évoluent dans tous les sens. Et voilà, donc ces chansons restent celles qu'on connaît, mais elles sont un peu, voilà, elles deviennent un peu folles. Donc il y a 4 dates où vous pouvez aller écouter Chantons Noël. Dimanche 10 décembre à 17h au Temple de Viamont à Lausanne. Et ensuite, 3 dates genevoises, le 12 décembre à 19h30 au Temple de la Fusterie, le 13 décembre à 19h30 au Temple de Chêne-Bougerie, et ensuite le 17 décembre à l'église de Bernay. Je vous encourage à y aller, je crois que c'est un bon moment où le public participe presque autant que les musiciens. Ensuite, l'orchestre du collège, ce fameux orchestre de jeunes collégiens à Genève qui a joué dans les plus grandes salles de cette planète bientôt, jouera le jeudi 7 décembre, donc demain soir, à 20h à la salle Franck Martin, son 3e concert. Il y en avait déjà un hier, aujourd'hui, pendant que vous nous écoutez. Sous la direction de Philippe Béran, un programme éclectique avec un concerto pour violoncelle d'Haydn joué en soliste par notre ami Cyprien Gruffel, un jeune musicien prometteur.
Que nous saluons.
Ouais, une pièce d'Alexandre Borodine, d'Eric Satie. Et enfin, pour finir, le célébrissime Boléro de Ravel. Et ensuite, pour faire le lien avec notre invité qui viendra bientôt, le concert du groupe Zatar, Appelant les Watts, à la salle du Vélodrome, le mercredi 13 décembre à 20h. C'est de la musique du monde, la musique méditerranéenne. Et un nouveau CD qui est sorti le 1er décembre. Et que vous pouvez acheter sur www.zatar.ch, Z-A-T-A-R.ch. Je vous encourage à aller sur le site, écouter ce qu'ils font et peut-être qui sait acheter leur CD.
Très bien. Côté théâtre...
Ouais, bah, qu'est-ce qui va se passer?
Je t'ai fait une petite sélection. Pour commencer, je te propose demain soir, jeudi 7 décembre, d'aller voir la performance de Anna Lemonaki, qui a adapté, mis en scène et qui joue la performance Petula Bye Bye sur un texte de Lena Kitsopoulou. C'est au Théâtre Saint-Gervais, donc demain 7 décembre. Et ensuite, vous pourrez aller voir Viking, la vie à l'ombre d'Yggdrasil, par la Beyond Company du 7 au 10 décembre au théâtre Waouh à Aigle. Et pour finir, je vous propose d'aller au théâtre du Grütli où un spectacle qui s'appelle Votre bonheur est là par la compagnie Alma Alba, mis en scène par Levki Papakrisostomou, que nous recevrons en deuxième partie d'émission. C'est du 5 au 17 décembre, donc ça a commencé hier soir, au théâtre du Grütli, et vous pouvez faire vos réservations sur le site internet de la compagnie Alma Alba. J'en ai fini avec l'agenda, je vous propose maintenant de passer à la découverte d'une œuvre.
Voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur une œuvre tellement célèbre qu'en fait on la connaît très peu.
Tellement célèbre et n'est que le prénom si j'ose dire, puisque va se jouer au théâtre Pitof Hamlet de William Shakespeare et j'aimerais vous en dire 2 mots.
C'est une création mondiale, non?
Voilà, c'est ça. Et j'aimerais commencer, si tu le veux bien, Olivier, en musique. La tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark, plus connu sous le nom de Hamlet. C'est la plus longue et l'une des plus célèbres pièces de Shakespeare. La date exacte de son écriture n'est pas connue, mais la première représentation se situe sûrement entre 1598 et 1601. William Shakespeare, né en 1564 et mort en 1616, est considéré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise. Ce qu'il y a de fascinant avec Shakespeare, c'est que c'est un des rares dramaturges à avoir pratiqué aussi bien la comédie et la tragédie, et de l'avoir fait, il faut le dire, avec brio. Alors de quoi ça parle, Hamlet ? Le roi du Danemark, ça parle du roi du Danemark, père d'Hamlet, qui meurt. Son frère Claudius l'a remplacé comme roi, et moins de 2 mois après, il épouse la femme de son frère, Gertrude, l'ancienne reine qui reste reine. Le spectre du roi apparaît alors et révèle à son fils Hamlet qu'il a été assassiné par Claudius. Hamlet doit alors venger son père, et pour mener à bien son projet, il simule la folie. Mais il semble incapable d'agir. Et il va utiliser un stratagème pour montrer à son oncle Claudius qu'il sait tout. Alors, comment il s'y prend ? Eh bien, il invite des comédiens à venir jouer une scène qui s'apparente curieusement à la vérité et au meurtre du roi du Danemark. Claudius s'en va avant la fin de la pièce lorsque un des personnages tue en empoisonnant le roi de théâtre, le roi de comédie. Alors, Hamlet a donné évidemment énormément d'inspiration chez d'autres artistes, en musique, en théâtre, en cinéma. Et tu te demandes peut-être quelle est la musique que je viens de mettre, Olivier ?
Ah, mon délit d'initié, je sais déjà.
tu sais déjà,
mais... Mais je me demande, c'est quoi ? C'est du Mozart, du Beethoven ?
Mais c'est ça, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un peu moderne. C'est un peu rock'n'roll. Et tu n'as pas totalement tort, figure-toi, parce que j'ai découvert... C'est assez extraordinaire.
Attention, ça c'est de l'archéologie, ça... messieurs, dames.
Alors attention, accrochez-vous, là, on a un scoop artistique assez extraordinaire. Eh bien, Hamlet a inspiré un des plus grands chanteurs français, si ce n'est le, puisqu'il s'agit de Johnny Hallyday, qui a fait un double disque studio sur Hamlet. C'est assez extraordinaire, et c'est ce que vous venez d'entendre, c'est l'ouverture du double disque.
Du Hamlet de Johnny.
Du Hamlet de Johnny. Je vous propose, d'ailleurs, d'en écouter un morceau. Le morceau s'appelle « To be or not to be ».
All right.
C'est extraordinaire
ce double album, c'est extraordinaire.
Il est apparu en 1976, figure-toi cet album. Alors, ah ouais. To be or not to be, parlons-en justement. To be or not to be, un des monologues les plus célèbres du théâtre.
Peut-être en français quand même.
Oui, évidemment. Être ou ne pas être.
Ah voilà, il me semblait bien.
La question ultime, à quoi bon vivre ou pourquoi ne pas mourir ? Là, c'est la question que pose Hamlet. Au départ, Sa question est une question de révolté. Vaut-il mieux mourir debout ou vivre à genoux? Ça, c'est toute la question d'Hamlet. On le sait, on imagine toujours Hamlet avec ce crâne dans la main, en le regardant dans le trou des yeux, si j'ose dire, et en disant, alors, vivre ou mourir? Et je vous propose de vous en lire un extrait, un court
Bastien.
extrait de ce célèbre monologue.
Attends, je me racle la gorge pour toi.
Peut-être avec un fond musical.
Voilà, de qui par exemple?
De Johnny Hallyday.
Bastien Blanchard, messieurs, dames, sur Radio La Fabrique.
Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune ou de prendre les armes contre une mer de tourments et en les affrontant y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Et par un sommeil dire, nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux mille chocs naturels dont hérite la chair. C'est une dissolution ardemment désirable. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. Ah, c'est là l'écueil. Car dans ce sommeil de la mort, les rêves qui peuvent surgir quand nous aurons quitté le tourbillon de vivre arrêtent notre élan. C'est là la pensée qui donne au malheur une si longue vie, car qui voudrait supporter les fouets et la morgue du temps? Les outrages de l'oppresseur, la superbe de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, la lenteur de la loi, l'insolence du pouvoir et les humiliations que le patient mérite endurent des médiocres, quand il pourrait lui-même s'en rendre quitte d'un coup de dague? Qui voudrait porter ses fardeaux pour grogner et suer sous une vie harassante? Si la terreur de quelque chose après la mort, contrée inexplorée, dont la borne franchie, nul voyageur ne revient, ne déroutait la volonté et nous ne faisait supporter les maux que nous avons plutôt que fuir vers d'autres dont nous ne savons rien. Ainsi la conscience fait de nous tous des lâches, et ainsi la couleur première de la résolution s'étiole au pâle éclat de la pensée, et les entreprises de grand essor et de conséquences se détournent de leur cours et perdent le nom d'action. Voilà.
Exceptionnel.
Le monologue d'Hamlet.
Bravo Bastien, et messieurs dames, je vous le jure, je l'avais devant mes yeux. Il l'a fait par cœur. Il l'a fait par cœur. Et ça fait des années qu'il le connaît par cœur. Il nous l'a fait une fois à un anniversaire, à une heure du matin, c'est la même.
Alors, donc, Hamlet, donc, comme je vous le disais, a donné plusieurs versions. Olivier, je crois qu'il a donné aussi des versions d'opéra, non?
Alors évidemment, c'est une tragédie qui a inspiré plus d'un. Mais il y a notamment un opéra d'un Français, un romantique tardif, un romantique du moins, qui s'appelle Ambroise Thomas. Et qui a fait un opéra en cinq actes sur le Hamlet, non seulement celui de Shakespeare, donc inspiré du Hamlet de Shakespeare, mais aussi celui d'Alexandre Dumas. Et je vous propose d'écouter le bout d'un air d'Hamlet qui chante « Au vin dissipe la tristesse qui pèse sur mon cœur. À moi les rêves de l'ivresse et le rire moqueur. »
Thank you. de nous, noix présage, loin de nous, noix présage, les plus sages sont les fous. Oh,
voilà, c'était Au vin dissipe la tristesse qui pèse sur mon cœur, de l'opéra en cinq actes d'Ambroise Thomas. Voilà, une écriture somme toute assez classique, c'est-à-dire que ce n'est pas très torturé comme écriture.
Pour finir sur la pièce de Shakespeare, Olivier, sais-tu, petite question piège, pourquoi Hamlet porte un crâne dans sa main ?
Alors, moi j'ai en tête une image avec un crâne et une bougie, mais je ne sais pas, c'est possible ça ?
Alors, parce que le comédien qui a créé le rôle d'Hamlet portait à la base un œuf. Mais étant très maladroit, il l'a souvent fait tomber, et du coup on lui a mis un crâne qui lui ne se cassait pas. Et c'est de là que vient l'expression « on ne fait pas Hamlet sans casser des œufs ».
C'est quoi cette histoire?
Bien. C'est trop con. Restons sur cette bonne humeur.
Attends, mais alors, juste la bougie, j'étais à côté de la plaque ou pas?
Non, alors après, je pense que ça dépend des versions.
Oui, c'est possible qu'il y ait une bougie.
Tout à fait. Restons sur cette note de bonne humeur et écoutons un dernier extrait, si vous le voulez bien, de cet album absolument mythique de Johnny Hallyday, Hamlet.
Attends, comment il s'appelle? Alors, le morceau?
Il s'appelle Le Cimetière.
Donc, morceau triste, messieurs, dames, s'il vous plaît.
Morceau triste.
Un peu de respect.
Attention, Le Cimetière.
Johnny Hallyday.
Les fossoyeurs jouent au bowling. Tête de turc, tête de king. Vous avez fait assez vieux os. Place aux jeunes qui les mots nouveaux. Crâne qui roule et tourne boule. Le chapeau te couvrait la tête, une calotte, une casquette. Que vendais-tu à la sauvette? Du Jésus ou de la courbette? Crâne qui roule et tourne boule.
Qui roule et tourne-boule. Pas voilà, facile c'est... à dire. Hein, essayez chez vous, crâne qui roule et tourne-boule.
C'était un extrait donc du double CD de 1976 de Johnny Hallyday qui s'appelle Hamlet.
Mais on sent les influences de Tinky Winky, Wistiti, Petit Winky Wintiti, non?
Surtout les influences de William Shakespeare. Bien, Olivier, je te propose maintenant de passer à la suite de notre émission. Revenons un peu au sérieux de cette émission. Pour rencontrer quelqu'un que tu as allé rencontrer, Joël Musy.
Voilà, Joël Musy, mais avant, petite introduction musicale.
Día. fuego en que te abraza, soy el viento en que suspira, soy la mar en que naufraga, soy la mar en que
Voilà, alors vous venez d'écouter une pièce de Manuel de Falla qui s'appelle La danse du jeu d'amour, tirée de sa suite El amor rojo, l'amour sorcier, et un morceau bien choisi pour inviter Joël Musy à notre table. Salut Joël.
Salut.
Alors Joël, tu vas nous parler du projet actuel qui guide ta vie, Zatar.
Absolument, ouais, c'est donc un quartet qui sort son deuxième album ces jours. Et qui est en pleine préparation d'une nouvelle création qui aura lieu à Plan Les Ouates le 13 décembre.
On va bien sûr revenir sur cette date fameuse de Plan Les Ouates. Mais déjà, qu'est-ce que veut dire Zatar ?
Alors Zatar, c'est un mélange d'épices en fait. C'est le nom pour un mélange d'épices, plutôt dans la région du Liban. Mais chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il nous dit que le vrai Zatar vient de son village. Donc probablement qu'il y en a différentes sortes. Mais voilà, l'idée maîtresse qui nous a guidés, c'est cette idée de mélange. Parce que la musique qu'on fait, ben, c'est bon, déjà au niveau de l'instrumentarium, si je peux dire comme ça, du groupe. Donc on a un violoncelliste classique, Francesco Bartoletti, qui est un peu à l'origine du projet. Et puis trois musiciens qui travaillent plutôt dans le domaine du jazz, un guitariste, Nicolas Lambert, une chanteuse, Soraya Berendt, et puis moi-même au saxophone.
Donc voilà, alors justement, la particularité du groupe Zatar, si vous voulez, c'est ce violoncelle et sa formation. Donc une formation qui vous permet, j'imagine, de faire des arrangements, car il doit y avoir un répertoire à construire vous-même.
Alors absolument, complètement. Donc il y a cette idée de mélange, comme il y a dans l'idée de Zatar. Mais, et puis, il y a déjà dans l'instrumentation ce mélange au début entre le classique et le jazz, qui était un peu l'idée de base au départ, mais qui a évolué. Et puis, disons que l'essentiel, c'est bon, il y a vraiment une idée de métissage. On s'est beaucoup inspiré des musiques de la Méditerranée en général.
Ouais, ouais.
On en parlera tout à l'heure, notamment avec nos projets avec des danseuses italiennes et une danseuse espagnole qui fait du flamenco. Donc voilà, nous, on essaye de métisser, on s'inspire des choses qui nous plaisent, des choses qui viennent d'ailleurs, et puis simplement un langage qui nous est propre. Il ne s'agit pas du tout pour nous de jouer du traditionnel, ni jouer du classique, ni même de faire du jazz, mais simplement de faire notre musique en s'inspirant, en s'imprégnant des choses qu'on aime, quoi.
Ouais, donc la culture méditerranéenne et aussi peut-être la culture un peu plus orientale, dans le nouveau CD qui va sortir, enfin, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, Aremu.
Alors je ne m'aventurerai pas sur... malheureusement la chanteuse n'est pas là. Je suis le moins performant pour les questions de prononciation.
C'est un mot, c'est quelque chose.
Non, alors oui, aussi. Non. Alors Aremu, ça veut dire qui sait. C'est le titre d'une chanson qui s'appelle Aremu Rindineja, quelque chose comme ça, mais vraiment je le prononce très mal, ce qui veut dire qui sait hirondelle. Voilà, c'est un poème d'une des chansons qu'on fait, mais Aremu en lui-même, ça veut juste dire qui sait, point d'interrogation.
Ouais, ouais, ouais.
Donc c'est vraiment quelque chose qui ouvre, qui pose la question.
Ouais, qui ouvre, on découvre tout de suite.
Voilà,
stratégie marketing.
Voilà. Mais effectivement, c'est un disque où on s'est inspiré à plusieurs sources, mais notamment toujours autour de la Méditerranée, de l'Italie du Sud, avec le Gréco ou le Salento, et puis il y a aussi de l'espagnol, et puis il y a des choses qui viennent plutôt des Balkans.
Voilà, donc ça, c'est plusieurs projets différents. Enfin, c'est le même projet, mais c'est plusieurs concepts différents. Alors, il me semble, tu me dis si je me trompe, que vous avez commencé avec déjà le groupe, le quartet sol, et ensuite vous avez invité une danseuse de flamenco à venir, Alba Lucera.
Oui, alors peut-être pour revenir au tout début, c'est vrai qu'au départ, le quartet s'est monté avec cette idée de mélanger entre guillemets jazz et classique, et on a travaillé effectivement en On a fait quelques arrangements de pièces classiques. C'était plutôt sur le premier album où il y avait, disons, un tiers de pièces classiques, un tiers de compositions de certains des musiciens du groupe. Et puis aussi quelques compositions, ça reste un peu notre fil rouge, d'un violoncelliste italien qui s'appelle, voilà, j'ai un trou.
Giovanni Solima.
Voilà, exactement, Giovanni Solima, qui est un violoncelliste que notre violoncelliste joue depuis longtemps. Et on s'est beaucoup, on a joué plusieurs de ces pièces qu'on a adaptées. Donc là, on avait déjà le mélange musique classique, la musique du sud de l'Italie. Puis après, on a eu la chance de rencontrer Alba Lucera, qui est une genevoise d'origine, mais qui s'est passionnée pour le flamenco et qui a, dès qu'elle a pu, été s'installer à Séville pour vraiment s'imprégner de cette culture et travailler sa danse. Et donc, on a monté un spectacle avec elle. Et du coup, ça nous a amené effectivement à travailler sur des pièces. Alors là, on fait pas de la musique de flamenco, hein, clairement pas. Mais disons que voilà, elle nous a donné. Bien sûr, il y a des reflets. Probablement le plus marquant, c'est l'extrait qu'on écoutera tout à l'heure.
Ouais.
Et puis voilà, avec elle, on a travaillé sur des choses où on pouvait justement faire notre musique et puis que ça pouvait correspondre à sa danse.
Ouais. Et qui te correspond aussi, car pour nos auditeurs, Joël est quelqu'un qui joue beaucoup de musique folklorique, populaire. Elle a aussi un groupe de klezmer, et elle a toujours travaillé là-dedans. Donc je pense que c'est une culture, voilà, que tu as dû avoir du plaisir à approfondir.
Oui, alors folklorique, je dirais pas tout à fait comme ça, mais disons que oui, je suis, de manière générale, c'est vrai que personnellement, j'écoute pas mal de ce qu'on peut appeler musique du monde. J'ai un autre orchestre où je fais passablement de musique klezmer. Donc oui, c'est des musiques qui m'interpellent, qui me parlent.
Et donc le deuxième pôle maintenant que vous avez avec Zatar, le groupe et toi, c'est aussi la danse italienne. Et vous avez une chorégraphe, il me semble, elle est peut-être danseuse aussi, mais Moira Capilli.
Oui, alors donc on a fait un premier projet autour du flamenco avec Alba Lucera. Et puis ensuite, on a rencontré Moira Capilli, qui est danseuse et chorégraphe. Et puis, qui a un parcours assez similaire à Alba, dans le sens que, bon, elle est d'origine italienne, mais elle a grandi à Vevey. Et puis, à un moment donné aussi, quand elle est devenue jeune adulte, en fait, elle avait besoin, ou envie en tout cas, de retrouver ses racines et de cultiver ça. Donc, elle est partie s'installer en Italie. Et puis, elle fait tout un travail autour des danses traditionnelles italiennes, en particulier la tarentelle. Et donc, on a monté un spectacle qu'on avait créé à Mérin, où elles étaient deux danseuses. Il y avait Moira et une deuxième danseuse.
D'accord.
Et puis maintenant, et ben voilà, comme les choses avancent, ben, l'envie, comme on aime...
C'est de cumuler.
On aime enrichir notre mélange d'épices, ben c'était de les faire rencontrer. C'est pour ça qu'on a créé ce spectacle, on va créer ce spectacle à Plan-les-Ouates le 13 décembre.
Alors, je te propose qu'on en parle plus profondément après, mais on va écouter un extrait du nouveau CD, donc Aremu de Zatar, le morceau qui s'appelle Andajaleo.
Sì, la divisava por ver, sì, la divisava. E solo divisa il palmo del coche, che la llevava del coche, che la llevava. Anda, jaleo, jaleo, y se acabó el alboroto, y vamos, sal tiroteo, y vamos, sal tiroteo. Thank you.
las flores, de su corona las flores, de su corona. Anda, jalea, jalea, y hace que vuele el barote y vamos, sal, tiroteo y vamos, sal, tiroteo.
Anda Jaleo par Zatar avec Joël Musy au saxophone, toujours en notre compagnie, qui va maintenant nous parler, Joël, tu vas nous parler de la date importante pour vous, le 13 décembre 2017 à 20h. Qu'est-ce voilà. qu'il va se passer?
Voilà, donc c'est notre nouveau spectacle où on va se faire rencontrer nos deux danseuses, donc avec lesquelles on a déjà fait deux spectacles précédemment. Donc Alba Lucera pour la danse flamenco et Moira Capilli pour les danses italiennes. Et puis ce spectacle s'appelle Terra Danza, Dialogue des Suds. Voilà, c'était pour nous intéressant de c'est vraiment des danses qui ont des énergies très, très différentes, en fait. Mais voilà, on était sûr qu'il y aurait moyen de... Enfin, voilà, nous, ce qu'on aime, c'est dialoguer. C'est que on aime s'imprégner. On sentait bien que ça pouvait fonctionner. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas encore.
Voilà, oui.
Mais on se réjouit. On est très content que le service culturel de Plan Les Ouest nous ait invités pour ce projet. C'est vraiment on aura des bonnes conditions. C'est une belle salle, l'espace Vélodrome. Je crois qu'il a changé de nom, mais enfin, c'est l'espace Vélodrome.
Oui, ça reste dans nos cœurs, en tout cas.
Voilà. Donc, voilà, ça sera... voilà.
Ouais, donc travailler la musique italienne, enfin la danse italienne, la danse espagnole, et qu'est-ce qui viendra après? Est-ce que vous allez traverser avec le groupe la Méditerranée? Est-ce que ça va rester alors, un peu plus au nord peut-être? Quelle est la suite de Zatar?
Il y a plein de choses en fait qui nous font envie. Il n'y a rien de très concret. Il y a une envie qu'on a de toujours et qui est vraiment très simple. C'est par la suite, c'est de refaire quand même. C'est vrai que ces dernières années, on a pas mal tourné. Jouer justement avec les danseuses, et puis là on vient de faire une grande pause, on a eu un congé maternité, donc on recommence à jouer ces jours, mais là depuis le mois de juin on n'avait pas fait de concert. Donc il y a une envie de jouer déjà en quartet aussi, de
vous retrouver,
de nous retrouver, de faire des choses. Après il y a plein d'envies. Une fois est sortie une idée qui reste un peu dans notre tête, mais qu'on aimerait beaucoup jouer avec un orchestre symphonique, mais on attend de trouver la bonne occasion, le prétexte.
À tous les orchestres symphoniques.
C'est une envie. J'en ai encore pas parlé à mes collègues, mais c'est vrai que j'ai eu la chance dernièrement de faire un voyage en Afrique, et je me disais que voilà qu'il y avait peut-être aussi des pistes de ce côté-là. Enfin, tout est ouvert en fait. On se limite à rien. C'est vraiment l'envie, le désir et le plaisir qui nous guident.
Et tant mieux. Et c'est le même plaisir qu'on aura à vous écouter le 13 décembre 2017 à 20h à l'espace Vélodrome pour votre nouveau spectacle Terra Danza. Dialogue des Suds. Merci Joël en tout cas d'être venu.
Merci pour votre accueil.
Et on se réjouit de la suite et on se réjouit de venir le 13 décembre.
Merci.
Voilà, de retour en studio avec Lefki Papa Chrysostomou. J'ai dit juste ?
Très juste.
Magnifique.
On dirait un grec.
T'as vu ça ? Alors, Lefki, qui es-tu pour nos auditeurs ?
Qui suis-je ?
J'ai ton CV sous les yeux, mais qui es-tu, en gros ?
C'était la première réplique que j'avais dans le premier spectacle qu'on a monté à l'école Serge Martin. C'était Patrick Brunet qui montait le spectacle et moi j'étais un ver de terre dans une pomme. Et la première réplique du spectacle et la mienne, c'était « Qui suis-je ?» se demande le ver. Ma petite histoire. Qui suis-je ? Je suis Lefki, comme tu as dit. Je suis chypriote. Mm-hmm. Je fais du théâtre, j'enseigne aussi le grec moderne, accessoirement, et je vis à Genève.
Voilà, super. Donc, pour compléter un peu tout ce qu'on trouve sur Internet, mais tu as un bachelor et master en lettres classiques, voilà, des études universitaires, un doctorat français sur le théâtre antique grec.
Ça fait important tout ça.
Ouais, ça fait très important.
Ensuite, bon, on ne reçoit pas n'importe qui. Hein. Non,
bah. Ensuite, diplômé de l'école de théâtre Serge Martin à Genève. Et maintenant, metteur en scène. Metteur ou metteuse?
Je trouve metteuse un peu moins jolie à l'oreille. Donc je préfère metteur.
Disons metteur en scène.
Voilà.
Ok. Comment on passe des études universitaires au métier d'acteur pour devenir ensuite metteur en scène?
Alors, les études universitaires, c'était, on va dire, quelque chose de, une voie naturelle au départ, désir des parents aussi, etc. Donc, là-dedans, il fallait que je trouve ce que moi, j'avais envie de faire. Et en faisant des études de lettres classiques, lettres classiques, je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ça. Pour choisir quelque chose qui n'était pas des maths ou de la physique, je suis allée à l'inverse, au contraire. Donc, en commençant les études de lettres classiques, j'ai eu en deuxième année un professeur qui nous a fait une introduction au théâtre antique. Bien évidemment, j'avais vu des pièces plusieurs fois. Mon père, il adore le théâtre, surtout antique grec, donc il m'avait initiée à tout ça. Mais ce cours m'avait donné envie de faire la pratique du théâtre. C'était une initiation au théâtre antique, mais il se basait beaucoup sur les sources qui nous donnent des informations aujourd'hui concernant le théâtre en Grèce au 5e avant Jésus-Christ, on va dire. Que ça m'a donné envie d'aller un peu chercher comment ça se faisait ce théâtre. Donc la porte d'entrée était le théâtre antique, et puis petit à petit je commençais à découvrir le théâtre antique d'aujourd'hui, comment il est transposé dans notre monde contemporain, ce qui m'a amené vers un théâtre plus contemporain. Fini le master, j'ai eu une grande hésitation. Est-ce que je vais faire du théâtre ou est-ce que je vais continuer mes études? J'ai décidé, un jour de pluie dans la cathédrale de Quimper, que je faisais un doctorat après 3 heures de méditation, en me disant du théâtre, je peux faire plus tard. Donc j'ai poursuivi dans cette veine de la pratique du théâtre antique et en préférence à la comédie pour travailler les pièces de théâtre de l'époque et tirer tout ce qu'on peut tirer de ces textes sur la pratique du théâtre à l'époque. Donc pendant les années de doctorat, ça me démangeait énormément de faire de la pratique. Donc j'ai monté une première pièce avec une équipe d'étudiants. À l'époque, c'était les Lysistrata d'Aristophane. Et là, je me suis dit, il va falloir que je fasse du théâtre. Mais avant, il faut que je termine la thèse parce qu'il fallait que j'avais envie d'aller au bout de ce boulot assez contraignant. Une fois que j'ai terminé la thèse, je suis arrivée à Genève par le hasard de l'amour. Et là, je me suis dit, c'est le moment de choisir. Donc, je savais, j'avais déjà 31 ans à l'époque, donc je savais que c'était un petit peu tard pour entrer dans les écoles de théâtre en général. On m'a parlé de l'école Serge Martin que je ne connaissais pas. Je connaissais le Coq, mais pas Serge Martin. Et on m'a dit que là, le limite de l'âge n'est pas aussi restreint que les conservatoires, qui est 24, 25. Maintenant, ça augmente un petit peu, mais pas tant que ça. Je lui ai écrit, mais je savais déjà que je ne voulais pas jouer. Je ne voulais pas être comédienne. Je savais que ce qui m'intéressait, c'était plus la mise en scène. Donc, j'ai écrit à Serge. Je lui ai dit que je voulais faire de la mise en scène. Est-ce que votre école propose un cursus de mise en scène? Il m'a fait un long mail que j'ai encore où il m'expliquait comment le comédien doit d'abord passer, pas doit, mais il est préférable, on va dire, et ça l'enrichit, le metteur en scène, d'avoir passé par le plateau. Donc j'ai fait la formation et à partir de là, eh bien, j'ai commencé à travailler dans le théâtre.
Alors justement, est-ce que le conseil de Serge Martin est utile ? Est-ce qu'avoir une formation d'acteur, ça aide à les diriger justement ?
Complètement, complètement. On ne peut pas ressentir ce qu'un acteur ressent sur le plateau si on n'a pas vécu ça. Si, moi, je ne suis pas une très bonne comédienne, mais j'ai eu des petits moments de grâce et je sais comment le metteur en scène à chaque fois m'a amenée à ça. Donc, c'est un autre chemin, finalement, pour aborder le comédien, d'avoir passé par le plateau. Pour moi, c'est essentiel. Les petites mises en scène que j'avais faites avant, je considère que j'étais à côté de la plaque. On va le dire comme ça. Parce que j'ai vu que qu'est-ce que ça demande à un acteur. Tu ne peux pas demander à un acteur de faire des choses sans savoir ce que ça lui demande à lui de faire.
En 2011, tu crées la compagnie Alma Alba. Parle-nous un peu de cette compagnie qui a déjà fait trois projets, je crois.
Trois et demi,
voilà, le quatrième arrive tout soudain, on en parle juste après. C'est écrit sur le site internet de la compagnie qu'elle consiste en la recherche sur la cohabitation performative des textes de théâtre et de l'actualité sociale.
C'est joliment dit. Hein. oui... Le théâtre, il m'intéresse du moment où il traite de ce que l'homme, avec un H majuscule, vit. Donc, je cherche toujours à relier un texte de théâtre qui, évidemment, évoque à chaque fois le contexte historique dans lequel il est écrit. Et... souvent, je ne prends pas toujours des textes de théâtre, mais je cherche à faire un lien entre le texte et un phénomène de société qui nous perturbe souvent dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc les projets que j'ai faits jusqu'à maintenant étaient un mélange des deux.
on voit aussi, si on s'intéresse à ton parcours, que... tu as donc des mises en scène avec cette compagnie que tu as créée, mm-hmm. voilà, et d'autres mises en scène qui sont des commandes. Est-ce qu'un metteur en scène a besoin d'être indépendant ? Est-ce que toi, tu as besoin d'être indépendant et de faire tes propres projets ?
Oui. Oui, parce que c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir eu à faire des commandes. Donc, quelqu'un monte un projet, un acteur souvent, qui, enfin en tout cas dans mon cas, ou une compagnie, qui cherche un comédien pour accompagner le projet. Évidemment, si je choisis, c'est parce que le projet m'intéresse aussi, mais je dois toujours embrasser, on dit, le projet des autres. Donc j'ai forcément envie à des moments de créer mes propres projets qui sont mes propres préoccupations et qui naissent de moi. Voilà. Parce que les commandes, c'est pas toujours facile, surtout si le porteur de projet est un des comédiens qui est sur scène. À un moment donné, ça t'échappe en tant que metteur en scène, parce que ce n'est pas ton projet.
Et c'est très personnel, j'imagine qu'il faut un peu voilà, rentrer dans la personnalité de l'autre pour pouvoir le mettre au mieux en valeur.
Tout à fait. Donc c'est une mise en scène, bien sûr, mais jusque-là, je l'ai vécu comme un accompagnement de celui qui porte le projet.
D'accord, je vous propose d'écouter un moment de musique maintenant. C'est un morceau de
Joël Musique, qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage. Le premier morceau du CD qui sort aujourd'hui, Aremu Rindineda.
Guaji και από τέτοιε φτάσει μου το καλό καιρό.
Paísia, leu os topos
Voilà, de retour avec, avec Lefki au studio. Parlons un peu de ce prochain projet qui a commencé hier soir au théâtre du Grütli, qui s'appelle « Votre bonheur est là ?» Point d'interrogation.
Tout à fait.
Alors, comment est né ce projet ?
Ce projet, comment il est né ? On était en 2016 et on travaillait au théâtre du Grütli d'ailleurs pour le festival Plein Tube pour les 30 ans de l'école Serge Martin. Mais bon, le sujet, ça faisait un moment que j'avais envie de le traiter, le thème de l'art oratoire. Donc, mais je ne savais pas par où le prendre. Et puis, comme là, un grand projet terminé avec Plein Tube, j'avais envie de passer à la suite. Et j'ai choisi celui-là. Je pense que c'est ça. donc voilà, ça fait depuis juin 2016 que je suis dessus. Et puis, c'est maintenant que ça se réalise.
Ok. Alors, si on vient voir donc, ce spectacle au Théâtre du Grütli, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, on voit pas quelque chose, on vit quelque chose.
Ah, c'est mieux.
On vit une petite expérience, on vit un instant de pause, en fait,
au milieu. Une césure.
Une césure.
Exactement.
On quitte la réalité pendant une heure et demie. Et on partage un moment avec les autres spectateurs et avec quatre comédiens qui nous entourent de théories sur qu'est-ce que c'est le bonheur aujourd'hui. Donc à travers l'art oratoire, l'art du discours, on traite cette thématique du bonheur et de qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc pendant une heure et demie, on vous propose plein de choses qui sont bons ou pas bons pour vous. Et puis à vous de faire le choix.
Très bien. Alors, on se réjouit d'y aller. Toutes les informations, je crois, je les ai déjà données en début d'émission. C'est donc du 5 au 17 décembre au théâtre du Grütli. Les réservations, c'est sur...
C'est uniquement sur le mail de la compagnie.
Qu'on peut rappeler.
Si, donc cie.alma.alba@gmail.com.
Voilà, on vous met toutes les informations sur notre compte Facebook. Dernière petite question avant de passer à notre question annuelle sur l'art. Le bonheur, Lefki, il est là pour toi?
Joker.
Joker, exactement. Il est là et il n'est pas là. Il va, il vient. Okay. Je discute avec.
Très bien.
Je négocie.
Merci beaucoup. Je te propose de passer à notre question mensuelle. On va parler rapidement aujourd'hui de l'intemporalité des œuvres d'art. Lefki, tu as mis en scène des textes qu'on peut dire antiques. D'après, par exemple, tu as fait le spectacle en 2014 Widerwolf, d'après les Bacchantes d'Euripide. Qu'est-ce qui fait que ces textes sont encore d'actualité ou sont encore joués aujourd'hui?
J'ai l'impression que ces grands auteurs ont saisi quelque chose à un moment donné qui était en dehors du temps et de l'espace et qui relève de l'archétype de l'homme, de la profondeur de l'humain. Et ça n'a pas changé.
Je crois que c'est un peu comme toutes les grandes pièces. Au fond, si elles restent, c'est que ça parle de l'homme et l'homme, au fond, ne change pas beaucoup, est toujours le même malgré les siècles passés. On a aussi un peu ça avec la musique classique, Olivier.
Enfin, évidemment, pourquoi les salles les plus remplies sont celles... ça a lieu quand on joue du Mozart, du Beethoven, ou toutes les symphonies de Beethoven, de Mahler, ou comme ça. Et avec la musique contemporaine, c'est plus difficile d'avoir salle comble dans des grands lieux prestigieux. C'est tout simplement car c'est aussi que l'homme aime revoir ce qu'il connaît déjà. Et puis ça, c'est tout simplement cérébral, genre c'est neurologique, je crois, j'aurais même une fois lu, que voilà, ça procure du plaisir aussi d'écouter quelque chose qu'on entend. Alors pour le théâtre, c'est toujours, évidemment, je ne pense pas qu'on puisse se souvenir 100% d'une pièce et puis savourer chaque lettre prononcée en se rappelant de ce moment-là, mais je pense qu'il y a ce message universel, plus le fait voilà, de se sentir rassuré dans une culture qu'on connaît. Et ma foi, toutes les premières et toutes les créations d'œuvres musicales ou théâtrales méritent que le spectateur laisse cette œuvre entrer en elle ou en lui pour la recevoir.
Mais alors, l'autre question, c'est et toutes ces œuvres contemporaines qui, parfois, ne rencontrent pas totalement leur public aussi. Si, je prends l'exemple du théâtre, si le théâtre, on dit qu'est le reflet de la société, pourquoi on ne joue pas plus d'auteurs contemporains et contemporains dans le sens d'aujourd'hui?
J'aime bien j'aime pas le terme contemporain parce que en allemand par exemple en musique il y a trois termes pour désigner ça. Il y a la musique actuelle, la musique moderne et puis la musique contemporaine. Et en fait c'est des choses qui sont très différentes parce que la musique actuelle c'est vraiment ce qui se fait maintenant et que ça soit de la musique classique, je vois que ça soit du rock, du métal, la chanson française, ça exprime la chose qui se fait maintenant. Et je crois que on va plus volontiers voir quelque chose qui est intitulé musique actuelle, car on sent que ça va nous parler. Alors que musique contemporaine, c'est pratiquement devenu une époque. Je veux dire, est-ce qu'on est toujours, nous, dans l'époque contemporaine encore maintenant? Alors que la musique moderne, elle dit ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que c'est une musique, même si c'était en 1750 ou en 1890 ou après, par exemple, les artistes au XXe siècle, c'est de la musique qui avait la volonté d'aller de l'avant. Donc Mozart était aussi de la musique moderne à une certaine époque. Seulement en allemand, il y a cette différence qui fait que je pense qu'on n'a pas autant stigmatisé la chose. Maintenant, c'est sûr qu'en français, on dit musique contemporaine, théâtre contemporain, et voilà, la personne qui s'y intéresse pas est vite repoussée parce qu'il a des images dont il a aucune idée en tête.
Tout à fait. Au moment où on écrit ou on produit une œuvre d'art, elle est dans l'actualité et ce qui la rend classique, c'est le recul qu'on a dessus. Aucune œuvre classique ne se nomme classique du moment où elle est écrite. Beckett, maintenant, c'est du classique. Mmh. À l'époque, c'était du contemporain.
Mmh, oui, absolument. Ouais.
Mmh. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. On se retrouve le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain. Attention, allez sur notre page Facebook ou soyez attentifs sur le site internet. Elle aura lieu, l'émission, probablement la deuxième semaine de janvier pour cause de vacances. Et oui, nous aussi, on a des vacances.
Merci beaucoup, Levki, d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Pour cette émission. On se retrouve au Théâtre du Grütli jusqu'au 17 décembre avec la compagnie Alma Alba. Votre bonheur est là. Allons vivre cette expérience avec ces acteurs et le public. Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.
Bonne année. Aussi.